je ne suis plus professeur d'Ancien Testament à la faculté de Vaux-sur-Seine. C'est mon collègue Mathieu Richel qui m'a avantageusement remplacé. Je crois d'ailleurs que vous avez eu l'occasion de l'entendre une fois dans le cadre de ces colloques sur les scientifiques chrétiens, scientifiques évangéliques. Alors c'est parfait. Chercher dans la Bible une réponse ou un éclairage sur un problème contemporain peut paraître hasardeux ou même présomptueux, surtout lorsque la question est liée à des progrès scientifiques, technologiques totalement inédits. L'histoire nous offre assez d'exemples pour nous inciter à la prudence. Il est peu probable que l'on trouve dans la Bible une réponse directe, une réponse explicite à des questions qui ne préoccupaient absolument pas les personnes à l'époque où la Bible a été écrite. Donc la prudence est de mise. La prudence, mais pas au point de devoir nous sentir dépassés, désemparés. Le psalmiste, l'auteur du psaume 119, se voit plus instruit que ses maîtres parce qu'il médite les préceptes du Seigneur. Psaume 119, verset 99. Et sa confiance, la confiance du psalmiste est de nature à nous encourager et à nous aiguillonner. Par rapport à une nouvelle problématique, pour laquelle il ne serait pas raisonnable de penser que nous avons une réponse directe et explicite dans la Bible, nous pouvons d'abord compter que l'enseignement biblique dans son ensemble, cet enseignement forme suffisamment notre discernement pour nous permettre de répondre à des questions inédites. C'est la voie de la théologie systématique et je pense que ça doit être l'axe principal de notre approche du sujet. L'exégèse de textes bibliques peut aussi, de textes spécifiques, peut aussi apporter un complément utile. Ceci parce que des questions différentes peuvent présenter entre elles suffisamment d'analogies pour significatives pour nous éclairer, et aussi parce que la nature humaine étant agitée par les mêmes préoccupations fondamentales, et aussi la nature humaine étant sujette aux mêmes tentations, de telles correspondances ne sont pas du tout inimaginables. Et c'est cette voie adjacente que je vous propose d'explorer sur un sujet donné, le récit bien connu de la tour de Babel, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Alors je dis bien explorer, parce que lorsque je me suis entretenu avec la coordinatrice de ce colloque, je n'avais qu'une idée assez floue du transhumanisme. J'ai un petit peu progressé, mais ça reste quand même assez rudimentaire. Et par rapport au récit de Babel, que je connais mieux, c'était une simple intuition à vérifier, l'intuition qu'il pouvait y avoir suffisamment d'analogies éclairantes. Et tout au long des lectures que j'ai entreprises pour cet exposé, je n'ai cessé de supposer, d'entrevoir, de douter pour en arriver au rapport que je vais vous présenter ce matin. Alors par où commencer? Je vais suivre une voie qui est plutôt inhabituelle pour un exégète. Je ne vais pas partir de l'exégèse d'un texte, mais de manière plus empirique, je vais partir de mention éventuelle de Babel en rapport avec le transhumanisme. Alors, ce n'est pas du tout un aperçu complet ou une analyse statistique que je suis en mesure de vous proposer. Ce sont de simples mentions, peut-être parfois assez anecdotiques, mentions de Babel dans des ouvrages divers liés au transhumanisme. Alors, dans un roman qui est apparu en 2018 et qui porte plus d'ailleurs sur l'hypersurveillance que sur le transhumanisme, ce roman qui porte le titre de Never Say, même le silence est sur écoute, l'auteur Pascal Lufnard évoque Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme, et voici en quels termes il en parle. Vie éternelle, fin des maladies, oubli du passé, brûlé par la lumière incandescente d'un présent continu, Kurzweil promettait de construire Babel, une cité sans souffrance, sans fragilité, sans mémoire. Et désormais, l'objectif de Never Say n'était plus d'entraîner des gouvernements à déclarer la guerre pour défendre l'Occident, mais de construire cette Babel. Construire cette Babel que promettait le transhumanisme. C'est donc dans un ouvrage qui est une critique indirecte du transhumanisme que celui-ci est rapproché de Babel, avec la logique suivante: Babel, projet démesuré et déshumanisant, et transhumanisme également, projet démesuré et déshumanisant. Dans le discours contemporain, Babel, qui est souvent cité d'ailleurs, et pas seulement en littérature, mais également en art, Babel porte des connotations différentes. Babel peut être l'entreprise humaine démesurée, avec des effets catastrophiques. C'est dans ce sens que Babel est évoqué dans l'ouvrage précédent. Peut-être aussi Babel, groupement humain disparate, dans la confusion des langages et des cultures, ou alors, à l'inverse, Babel, utopie d'un langage unique. Et c'est dans ce troisième sens que Babel est associé au transhumanisme dans un autre ouvrage critique, mais plus sérieux celui-là, puisque ce n'est pas un roman. Pierre Giorgini, recteur de l'Université catholique de Lille, dans son ouvrage La tentation de génie, qui est apparu lui aussi en 2018 chez Bayard, Pierre Giorgini associe le transhumanisme à la numérisation du monde, langage universel, langage unique, au-delà, dit-il, du mythe de Babel. Babel va apparaître encore en relation avec le transhumanisme dans des ouvrages de promotion du transhumanisme. Norton Lee, dans son ouvrage Google It, Total Information Awareness, qui est apparu chez Springer en 2016, évoque un épilogue dans son ouvrage, un épilogue sur la tour de Babel, et il dit ceci: certains accusent les transhumanistes de se prendre pour Dieu et de construire la tour de Babel. Si les transhumanistes, dit-il, construisent la tour de Babel, ce n'est pas pour faire concurrence à Dieu, mais c'est pour mieux comprendre l'univers et les humains créés à l'image de Dieu. Ceci à la page 527 de son livre. Il donne l'exemple des médecins qui utilisent bien la technologie pour soigner. Une dernière citation, elle se trouve dans un ouvrage collectif, et c'est un auteur du nom de Lincoln Cannon, qui a donc l'ouvrage collectif Religion and Human Enhancement, qui est paru chez Springer en 2017. J'ai l'impression que Springer publie beaucoup d'ouvrages sur le transhumanisme. Donc cet auteur contribue à cet ouvrage collectif par un article qui porte le titre de « Mormonism mandates transhumanism », Lynn est l'un des membres fondateurs de la... Canon. Lincoln Canon est l'un des membres fondateurs de la Christian Transhumanist Association. Et il discute de l'utilisation du texte de Babel comme mise en garde contre l'hybris humaine et éventuellement contre l'extension des capacités humaines que prône le transhumanisme. Et sa réponse, c'est que la faute des bâtisseurs de Babel, cette faute, ça n'est pas d'avoir voulu réaliser une prouesse technique démesurée, la faute, c'est d'avoir voulu le faire sans Dieu et contre Dieu. Et il met en parallèle Noé, qui lui aussi a réalisé une prouesse technique remarquable, mais sur ordre de Dieu et pour Dieu, alors que les bâtisseurs l'ont fait de leur propre initiative et l'ont fait contre Dieu. Et il plaide, lui, pour un usage éthique. Ah, j'ai oublié de vous donner une phrase de Lincoln Cannon. Il plaide pour un usage éthique de toutes les possibilités qu'offre la technologie. Alors ici, nous touchons à la question de l'exégèse du récit biblique. Parce que si la faute des bâtisseurs de Babel ne réside pas dans le projet en lui-même, une tour qui touche au ciel, mais un projet prométhéen où l'homme outrepasse les limites qui le séparent de Dieu, si elle ne réside pas dans le projet lui-même, mais uniquement dans les sentiments d'orgueil qui motivent et accompagnent la réalisation, alors il faut conclure que le récit de Babel n'a rien de très spécifique à nous dire sur le transhumanisme. Sinon qu'il devrait être exempt d'orgueil et de défis à Dieu au seul niveau des motivations. Alors, ça n'est pas rien quand même lorsqu'on entend les discours de beaucoup de transhumanistes. Mais cela concerne en fait toute activité humaine. Or, la question spécifique que pose le transhumanisme, semble-t-il, ça n'est pas celle des intentions, mais plutôt celle des limites. Limites des interventions humaines pour étendre les capacités humaines et aussi limites de la vie humaine. La durée de la vie humaine. Dans l'interprétation du récit biblique, la faute peut être logiquement repérable à partir des intentions qui sont énoncées au verset 4. Et on peut repérer trois intentions. Atteindre le ciel, une tour dont la tête est dans le ciel, en le mot à mot du texte biblique. Première intention. Deuxième motivation, se faire un nom. Et troisième, ne pas être dispersé. Alors, quand on observe l'histoire de l'interprétation du texte, on constate que c'est à partir de la réforme que le premier motif, atteindre le ciel, est écarté comme étant un motif absurde. Comment peut-on imaginer atteindre le ciel en construisant une tour? Et c'est le deuxième motif que l'on retient comme la faute des bâtisseurs de Babel. Luther dit « faisons-nous », et il souligne le « nous », « faisons-nous une ville et une tour, faisons-nous un nom ». Ils ne construisent pas pour Dieu, ils ne sanctifient pas le nom de Dieu. Et Calvin, c'est encore plus clair, « ce n'était pas un si grand crime en soi de bâtir une tour ». Mais de vouloir établir un mémorial qui dura à jamais, cela sentait son orgueil débridé et un mépris de Dieu. Les commentateurs de la Réforme étaient aidés dans cette élimination du premier motif par les légendes qui lui étaient souvent associées. On reviendra sur ces légendes. Et donc les interprètes écartent en même temps les légendes associées et le motif lui-même. Que Lampade, le réformateur de Bâle, dit « Il ne faut pas s'imaginer qu'ils étaient assez fous pour penser par cet édifice pouvoir chasser Dieu. » Et Luther, comment pouvait-il penser pouvoir échapper à un déluge qui avait recouvert de plus de 15 coudées les hautes, plus hautes montagnes en construisant une tour? Et régulièrement, on cite le passage de Deutéronome 1, verset 18, pour montrer qu'il s'agit d'un usage d'une hyperbole banale. Les espions revenant du pays de Canaan rapportent que les murailles des villes s'élèvent jusqu'au ciel. Donc c'est simplement façon de parler de grandes murailles et donc d'une grande tour. Donc c'est le péché d'orgueil que l'on retient, se faire un nom, et cela va rester l'interprétation dominante pendant des siècles. Dans les années 1990, plusieurs proposent un renversement radical de la compréhension du récit. La langue unique, qui était présentée comme la situation idéale dans l'interprétation traditionnelle, la langue unique devient le symbole de l'uniformité oppressive et le malheur de la division des langues devient au contraire le bienfait de la diversité. Babel n'est pas la punition de l'orgueil, c'est simplement la poursuite du plan de Dieu qui avait été un moment interrompu, retardé par la mauvaise volonté des humains. Et la faute des bâtisseurs de Babel, s'il y a faute, c'est d'avoir refusé de se disperser. Cette interprétation à contresens du récit biblique, qui a connu une certaine vogue en français, on peut citer l'ouvrage au titre vraiment symbolique, La bénédiction de Babel, de François Marty, jésuite. Cette interprétation ne pouvait pas tenir longtemps. Tant elle allait contre le sens obvious du texte, et tant elle était inspirée par l'idéologie du temps, célébration béate et sans réserve de la diversité. Tous les ouvrages ou articles récents que j'ai consultés écartent cette interprétation-là. Ce qu'on peut retenir, cependant, et ça a déjà été signalé dans le passé, c'est que la sanction de Dieu est une sanction modérée, et en partie salutaire. Et ce qu'on peut retenir également, c'est que la diversité a été présentée dans le chapitre 10 comme un développement naturel de l'espèce humaine. Donc la fin du récit des origines, récit qui occupe les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse, cette fin du récit des origines nous offre une vision contrastée de la diversité des langues et des peuples, naturelle dans le chapitre 10, elle est aussi cause d'incompréhension et limite aux ambitions humaines, d'après le chapitre 11. Donc, le motif de l'orgueil, se faire un nom, retrouve toute sa pertinence dans les travaux de ces dernières années, et aussi chez plusieurs, celui de l'entreprise téméraire, atteindre le ciel. Reprenons l'histoire de l'interprétation au début. Dans les écrits de la période intertestamentaire, on peut repérer deux objectifs principaux prêtés aux bâtisseurs de la tour. Premièrement, se prémunir contre un nouveau déluge, et deuxièmement, accéder au ciel. Le premier motif est mentionné par Flavius Joseph dans ses Antiquités juives, et le deuxième motif apparaît dans le livre des Jubilés, chapitre 10, verset 19. Ils avaient dit « montons au ciel ». Dans les oracles sibyllins, ce troisième oracle, verset 100, il voulait atteindre le ciel étoilé, et dans l'Apocalypse syriaque de Baruch, chapitre 3, verset 6, il précise qu'il cherchait à percer le ciel avec une tarière pour voir s'il était fait de terre cuite, d'airain ou de fer. Dans les deux cas, se prémunir du déluge ou atteindre le ciel, il s'agit d'un acte de défiance et d'hostilité vis-à-vis de Dieu. Joseph parle d'un affront contre Dieu à l'instigation de Nemrod, un défi, une vengeance contre Dieu. Et dans les deux cas aussi, la hauteur exceptionnelle de la tour joue un rôle essentiel, mais c'est dans la deuxième version du motif que l'expression prise dans son sens le plus littéral, une tour qui atteint le ciel, implique le plus nettement la volonté d'égaler Dieu. Un auteur de cette époque, Philon d'Alexandrie, dans son traité de la confusion des langues, un traité qui est entièrement consacré à l'interprétation de ce passage, Philon se démarque par son interprétation allégorique du récit, il est bien connu pour cela, et une interprétation qu'il estime plus édifiante que le sens littéral. Une tour qui atteint le ciel, dit-il au paragraphe 114, ce sont les pensées impies sur Dieu, telles que Dieu n'existe pas, ou il n'exerce pas de providence, ou le monde n'a pas été créé. Et au paragraphe 133, il précise, le mot ciel est utilisé ici de manière symbolique pour signifier notre pensée. Pour Philon, il est matériellement impossible d'atteindre le ciel, et il avance des raisons de type scientifique. Il dit même en élevant en une seule colonne toute la matière des continents, on serait encore loin de la sphère éthérée. Et puis, deuxième raison, alors c'est la science de l'époque de Philon, l'éther, comme son nom l'indique, en grec, il relie au verbe brûler, l'éther est brûlant. Et si on s'élevait trop haut dans l'éther, eh bien on serait brûlé par le soleil. Paragraphe 157. Donc c'est impossible. C'est impossible, mais c'est bien ce que cherchaient à faire les bâtisseurs. Philon tire précisément de l'impossibilité d'atteindre le ciel la conclusion que la tour est restée inachevée. Paragraphe 156 et 157. Et il dit que les hommes étaient désireux par démence, en même temps que par folie des grandeurs, d'atteindre le ciel. Paragraphe 5. Les deux motifs, se prémunir contre le déluge, atteindre le ciel, parfois associés, vont être repris ensuite, parce que là nous étions dans la période la plus ancienne, ils vont être repris dans la tradition rabbinique, et ils vont être repris par les pères de l'Église, avec des amplifications variées. On va épiloguer sur la taille de la tour. Une tour qu'il faudrait un an pour atteindre le sommet de la tour. C'est ce que raconte un midrash du 11e, 12e siècle, le Sefer HaYashar. Livre du juste, mais ce n'est pas le livre du juste mentionné dans la Bible. Quoique les Mormons, je crois bien, oui, pensent que c'est vraiment le livre du juste mentionné dans la Bible. On épilogue sur l'intention des bâtisseurs. Ah, je suis allé trop vite. Oui, c'est ça. Intention des bâtisseurs. Percer le ciel avec une tarière, d'après le troisième livre de Baruch, l'attaquer à la hache pour faire couler l'eau qui se trouve au-dessus, c'est ce que dit le Talmud de Babylone dans le traité Sanhédrin 109a, et ce même document recense encore trois autres motifs, parce qu'il répartit les bâtisseurs en trois groupes différents, ayant chacun une intention différente. Pour les uns, ils voulaient aller habiter au ciel. Pour les autres, il s'agissait d'aller rendre un culte au ciel. Et pour les troisièmes, le troisième groupe, de mener la guerre contre Dieu. Et on retrouve dans le Midrash Rabba, oui. Voilà, dans le Midrash Rabba, qui date du 5e, 7e siècle, et c'est une idée qui est déjà présente dans le Targum palestinien, dans le Targum palestinien. Il voulait placer au sommet de la tour une idole avec une épée à la main pour bien montrer qu'ils étaient en guerre contre Dieu. Et on trouve également des amplifications sur le sort réservé à la tour, alors que dans le récit biblique, elle est simplement inachevée, les hommes cessent de construire. Là, elle est détruite, Dieu envoie la foudre, un vent violent, elle est détruite aux deux tiers, dit le livre des Jubilés, et le commentaire Bereshit Rabba. Ça se retrouve dans des gravures de l'époque de la Renaissance, où l'on voit la tour détruite, et même en épilogue aussi sur les malheurs qui frappent les bâtisseurs. D'après le livre le troisième livre des Baruch, ils sont rendus semblables à des chiens, et dans le Talmud de Babylone, ils sont rendus semblables à des singes, à des esprits, des spectres ou des démons. Alors, dans les commentaires chrétiens, on voit moins d'affabulations de ce genre. L'hypothèse est reprise, souvent reprise, et qu'il voulait se prémunir contre un nouveau déluge. C'est l'interprétation que l'on trouve dans la glose ordinaire et le commentaire de Nicolas de Lyre, ces ouvrages qui paraissent jusqu'à vers le 15e siècle, juste avant l'époque de la Réforme. Alors, à partir de la Réforme, comme je l'ai dit, on va juger l'interprétation littérale absurde. Une tour qui touche le ciel, c'est simplement une hyperbole commune pour parler d'une grande hauteur, mais il n'est pas si facile d'écarter le sens concret. Philon, on l'a vu, ne conteste pas, même s'il préfère l'allégorie. Et à l'époque patristique, la démarche d'Augustin me paraît très significative. Dans son étude sur les locutions du Pentateuque, c'est la question 35, il note l'expression du verset 4 et dit « Une tour dont le sommet va jusqu'au ciel, ça pourrait bien être une locution, une simple façon de parler d'une haute tour, à moins qu'il ne faille prendre les mots à la lettre. » Et là, il renvoie à ses questions sur l'Heptateuque. Et dans les questions sur l'Heptateuque, la question 21, il commente « Si ces hommes ont cru réellement pouvoir y atteindre le ciel, leur projet dénote une impiété et une audace proprement insensée. Toutefois, la vengeance divine qui s'en est suivie et la confusion des langues peut laisser croire qu'ils avaient vraiment cette pensée d'atteindre le ciel. Sinon, pourquoi Dieu serait-il intervenu de cette façon ? On voit bien la réticence d'Augustin à l'idée du sens littéral, mais aussi sa difficulté à y échapper. Et dans la cité de Dieu, dans la cité de Dieu, au livre 16, chapitre 4, on perçoit la même réticence. Quel tort pourrait-on faire réellement à Dieu, même en s'élevant au-dessus de toutes les montagnes et de la plus haute région de l'air? Mais il dit quand même à propos des bâtisseurs de Babel, ils prétendaient faire la ville extraordinairement haute et l'élever jusqu'au ciel. Cette compréhension littérale, écartée tant bien que mal du XVIe au XIXe siècle, elle réapparaît au début du XXe siècle dans le commentaire de Hermann Gunkel qui paraît en 1901. Et Hermann Gunkel a un intérêt particulier pour ce qu'il appelle les légendes anciennes qui sont reprises dans la Bible, c'est le mouvement de la Formgeschichte. Et pour lui, il est évident que l'expression doit être prise au sens littéral. C'est ainsi que fonctionne le récit. Les humains, en construisant la tour, veulent parvenir au niveau de Dieu, et Dieu s'estime menacé par l'entreprise, et il décide d'y mettre fin, et de se prémunir contre toute nouvelle tentative du même ordre. Et il établit le lien avec le chapitre 3 de la Genèse, Dieu, voyant l'homme usurper l'un de ses privilèges, il décide lui-même ce qui est bien et mal, s'empresse de lui interdire l'accès à l'autre privilège, l'arbre de vie. Genèse 3, verset 22. Donc pour Gunkel, c'est une légende, mais une légende hautement significative. C'est un phénomène récurrent, dit-il, dans l'histoire humaine, que des projets démesurés sont conçus et mis en œuvre, mais restent inachevés. Des projets aussi excessifs ne doivent pas être réalisés, car l'homme ne doit pas avoir de nom éternel sur la terre. Et il ne doit pas être tout-puissant, car alors il serait comme Dieu. Ainsi, ces édifices sont les monuments témoins de l'insolence humaine, la tour dressée vers le ciel et la ville gigantesque, et en même temps, le mémorial de la sanction divine, inachevée. Page 90 de son commentaire. Allons-nous dire Amen. Deux questions se posent. Quel temps me reste-t-il? Ça ira largement. Deux questions se posent. Le lien, inévitable ou non, avec la compréhension du texte comme une légende, c'est le cas de Gunkel. Et puis la deuxième question, c'est celle de la pertinence d'un rapport éventuel avec le transhumanisme. Alors, sur le premier point, il suffit de comparer le récit biblique avec les légendes antiques et avec toutes ces appoggiatures narratives qui ont fleuri dans la tradition juive pour être frappé par l'impressionnante sobriété du texte biblique. On n'a pas évoqué jusqu'à présent les parallèles éventuels avec des récits mythologiques. Philon, au début de son traité, au paragraphe 2, pose la question « Mais alors, est-ce qu'il y aurait aussi des légendes dans la Bible ?» Et il compare le texte biblique avec la légende des deux géants qui, pour faire la guerre à Zeus, ont entassé trois montagnes. L'Olympe, le Pélion et l'Os, j'oublie le troisième nom, ils ont entassé trois montagnes pour atteindre le ciel. On trouve la légende dans l'Odyssée d'Homère, chant 11, vers 311 à 320, et la légende est reprise par l'auteur latin Ovide, au 1er siècle, dans les Métamorphoses et aussi dans son ouvrage Les Fastes. Et Philon note la différence entre les deux registres, entre le registre de la fable grecque et le registre biblique. Non pas des demi-dieux, mais des êtres humains. Non pas des montagnes entassées, mais simplement des briques pour construire une tour. Le récit biblique se distingue, je pense qu'on peut le dire, par trois traits majeurs. D'abord sa sobriété, sa très grande sobriété. On ne nous dit même pas exactement ce qu'il voulait faire, hein, une tour qui est au niveau du ciel. Et ensuite, pourquoi? Et c'est de là que naissent toutes les élucubrations. Donc sa sobriété, son humour et son lien avec une réalité historique, la ville de Babylone et les ziggourats mésopotamiennes. Et l'humour n'est certainement pas sans pertinence pour la question qui nous occupe. L'humour, on le voit très bien dans l'étymologie, la fausse étymologie de Babel. C'est une étymologie ironique et ça se voit très bien parce qu'il y a une différence entre Babel et Balal, Balal brouillé. Donc on voit très bien que ce n'est pas l'étymologie. on plaisante sur le nom de Babel avec une fausse étymologie, une étymologie ironique. Autre ironie, le texte abonde en ironie, et je vous recommande l'ouvrage de mon collègue Mathieu Richel sur les 11 premiers chapitres de la Genèse, il développe ce thème. Ce que les bâtisseurs de Babel veulent empêcher, c'est précisément ce qui leur arrive, ils sont dispersés. Ils veulent se faire un nom, et le nom qu'ils se font, c'est confusion. Ils veulent une tour qui atteigne le ciel, et Dieu est obligé de descendre, ne serait-ce que pour voir la tour. Cette façon d'ironiser sur la démesure de l'être humain, ça n'est pas du tout une façon de minimiser cette démesure, de laisser penser que cette démesure ne serait pas dangereuse, mais c'est bien plutôt de faire ressortir que, quelle que soit la démesure de l'être humain, Dieu garde le contrôle. Et ça n'est certainement pas sans pertinence en rapport avec le transhumanisme. Alors, par rapport à des progrès technologiques qui donnent à l'être humain l'intuition et l'ambition d'égaler Dieu, la tour de Babel nous apparaîtra aujourd'hui singulièrement dépassée. Qui, aujourd'hui, pense qu'élever une grande tour, construire des gratte-ciels ou même poursuivre cette escalade dans les tours de plus en plus hautes serait un défi contre Dieu? À la fin du XIXe siècle, lorsque on examinait le projet de la construction de la tour Eiffel, il y a eu une pétition signée par des architectes et par des artistes, et elle évoquait le fait que on parlait de cette future tour Eiffel comme étant une tour de Babel, mais c'était pas pour des motifs religieux, c'est pour des motifs qui étaient purement esthétiques que la pétition a été lancée. Si le récit biblique implique une limite à ne pas franchir, limite dont le franchissement constitue un défi à Dieu, la question qui va se poser, c'est où est la limite? Et est-ce que la limite, on peut la concevoir comme mobile? Est-ce qu'elle se déplace avec les progrès techniques? Et dans ce cas-là, on a l'impression que l'homme empiète toujours plus sur le domaine de Dieu. Dans le mythe de Prométhée, c'est le feu. Dans le récit biblique, c'est une tour. Et la limite, elle ne cesse de reculer. Dans certains commentaires, j'ai vu que la conquête spatiale était comparée à Babel. La limite recule. Elle recule en fonction des progrès humains, mais n'est-ce pas pour signifier, pour être significative à chaque époque. Parce que à chaque nouvelle étape où la limite paraît franchie, on voit très vite que l'avancée technologique se banalise. On voit aussi qu'on mesure les limites de l'avancée et ses effets indésirables, et à notre époque, les effets indésirables sur l'environnement nous touchent particulièrement. Et puis, on constate aussi les imperfections morales de l'être humain qui n'en apparaissent que plus criantes, plus désolantes, plus dévastatrices. Ainsi, l'être humain ne peut pas s'affranchir de la conscience de ses limites. Ce n'est que dans l'avenir que l'être humain se rêve affranchi de limites qui l'ont toujours empêché d'avoir la maîtrise absolue de son destin. Et le fait que, dans le récit biblique, la limite nous apparaisse aujourd'hui si basse, la construction d'une tour, cela tient au caractère historique et progressif de la révélation biblique, tout le caractère historique de la révélation biblique. Et ça présente aussi pour nous l'avantage de renforcer l'ironie de la situation. Lorsque l'homme se prend pour Dieu, il est toujours ridicule, même s'il est dangereux. Et Yuval Noah Hariri me semble en avoir conscience lorsqu'en conclusion de Sapiens, il ironise sur les self-made gods. En français, ça a été traduit self-made Dieu. C'est un peu dommage parce que en anglais, il y a le self-made man, alors il faudrait que ce soit self-made god. Les self-made gods avec leurs propres contradictions. La page 492 de Sapiens. Pour attacher ces réflexions à une perspective plus générale, biblique plus générale, je pense qu'on peut dire que Dieu oppose une triple limite aux ambitions humaines. Premièrement, certains projets, toujours entrevus, caressés, poursuivis, ne sont jamais réalisés, notamment de prolonger indéfiniment la vie humaine. Il faudrait venir plus précisément à Genèse 3. Dieu défend l'accès à l'arbre de vie. Deuxième limite, lorsque des progrès sont réalisés, chaque fois que des progrès sont réalisés, les limitations de l'être humain n'en restent pas moins réelles et criantes. Et troisième limite, ultimement, Dieu mettra fin définitivement au projet arrogant et hasardeux des humains en établissant son propre règne. Voilà, me semble-t-il, qui nous ouvre un espace pour évaluer avec une certaine sérénité les projets envisagés et poursuivis sous l'étendard du transhumanisme, en sachant que Dieu regarde toujours cela de haut et qu'il ne sera jamais dépassé par les événements.
Merci beaucoup, Synécole.